19h, bonsoir et bienvenue dans l'émission Droit Devant, émission proposée et préparée par les groupes angevins d'Amnesty International sur Radio G 101.5 FM, un jeudi sur deux. Merci de nous retrouver pour cette demi-heure consacrée aux droits humains. Pour animer aujourd'hui cette émission, nous accueillons ce soir Elisa et Philippe.
Bonsoir à tous.
Ravi de vous retrouver.
Et merci Pierre pour la réalisation.
Bonsoir.
Dans cette émission, nous accueillerons Zoltan de l'ACAT, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Puis nous parlerons de l'actualité, nous écouterons Elisa qui nous donnera des nouvelles de l'antenne jeune et nous finirons bien sûr par l'agenda militant et culturel. Mais tout d'abord, commençons par l'éditorial de Philippe. Alors tu vas nous parler de la guerre qui a repris au Soudan.
Et oui, depuis le 15 avril, tous les regards sont à nouveau tournés vers le Soudan, dans le nord-est de l'Afrique, au sud de l'Égypte. Le pays, l'un des plus pauvres au monde, où la faim touche plus d'un habitant sur trois, est déchiré par la guerre depuis des décennies. Après des semaines de tensions, la lutte de pouvoir entre les deux hommes forts du pays a dégénéré. Elle oppose le chef d'État de facto, Al-Burhan, à la tête de l'armée régulière, et son numéro 2, le général Emeti, chef d'une importante milice paramilitaire, les forces de soutien rapide.
Et pourtant, en avril 2019, une lueur d'espoir est apparue.
En effet, après 16 semaines de manifestations ininterrompues contre son régime, le dictateur Omar el-Béchir est destitué par l'armée. La pression populaire met fin à 30 ans de dictature et le nouveau gouvernement soudanais signe un accord de paix, qualifié alors d'historique, avec une coalition de 9 formations politiques et groupes armés issus de différentes régions ravagées par les conflits.
Alors comment expliquer ce brutal retour en arrière ?
Pour bien comprendre les enjeux de ce conflit, il faut s'intéresser au Darfour, qui est comme l'épicentre de cette guerre. Cette province à l'ouest du Soudan s'est soulevée contre le pouvoir central en 2003. La répression sera féroce. 300 000 morts entre 2003 et 2020. C'est alors qu'apparaissent les forces de soutien rapide qui vont vite devenir incontournables.
Et sur quoi portent les désaccords entre les deux camps ?
L'armée, c'est la caste des officiers formés sur les bancs des académies militaires liées à l'Égypte qui s'opposent aux milices constituées de nomades et éleveurs de chameaux. Le Soudan se retrouve donc avec deux forces militaires rivales. Le jour où la guerre a éclaté, les deux généraux devaient discuter avec l'ONU de l'intégration des forces de soutien rapide à l'armée, condition sine qua non à un retour à la transition vers un gouvernement civil et donc à la reprise de l'aide internationale.
Alors peut-on dresser un bilan provisoire de ces affrontements ?
Depuis le 15 avril, la guerre entre l'armée et les paramilitaires a fait au moins 700 morts, 5000 blessés, selon un bilan largement sous-estimé. Les hôpitaux ne peuvent suivre. Moins d'un sur cinq est encore en fonctionnement à Khartoum et quasiment aucun au Darfour. Les combats ont déplacé plus de 335 000 personnes et poussé 115 000 autres à l'exil, selon l'ONU, qui s'attend à 8 fois plus de réfugiés.
Et alors, comment se comportent les forces en présence ?
Elles ont toutes deux commis de graves violations des droits humains. Les forces de soutien rapide ont aidé l'armée à écraser la rébellion dans la région du Darfour. C'est un groupe paramilitaire très puissant qui s'est enrichi en acquérant des institutions financières et des réserves d'or. Son chef entretient d'importantes relations avec des gouvernements étrangers, russes notamment. Il a conduit les FSR à s'associer au groupe Wagner dans l'exploitation de l'or au Soudan. Les forces armées ont quant à elles notamment utilisé des armes chimiques contre des civils au Darfour en 2016.
Et alors, que fait la justice internationale.
L'enquête menée par la Cour pénale internationale sur le Darfour, lancée en juin 2005, a conduit à l'instruction de 6 affaires. Le procès du principal dirigeant des milices s'est ouvert en avril 2022. Omar el-Béchir a été le premier chef d'État en exercice à être recherché par la CPI. Il est inculpé de 5 chefs d'accusation de crimes contre l'humanité, 2 chefs de crimes de guerre et 3 chefs d'accusation de génocide pour des crimes commis entre 2003 et 2008, mais il n'a toujours pas été transféré à la haie. Et malgré une amorce de pourparlers samedi à Jeddah en Arabie Saoudite, il faut s'attendre à un conflit prolongé au Soudan parce que les deux camps pensent pouvoir l'emporter militairement. Cruelle impuissance de la communauté internationale.
Merci Philippe. Et vous êtes toujours dans Droit Devant sur Radio G101.5 FM. Nous avons aujourd'hui le grand plaisir de recevoir Zoltan, donc de l'ACAT. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir.
Bonsoir Zoltan.
Alors, est-ce que tu peux commencer par nous présenter cette action ou association ?
Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Oui, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'être ensemble associés, mais d'agir. Et c'est à cela qu'on appelle les chrétiens. Donc c'est une association qui s'est... Oui, c'est quand même une association. on rigole un peu. Qui s'est créée, qu'on a créée en 1974, en pleine guerre du Vietnam. Et ça devenait un peu urgent que les chrétiens se bougent, en fait. C'est même Amnesty International qui nous a interpellés à l'époque. Mm-hmm. En fait, il y a eu un pasteur, Tulio Vinay, qui a été faire... un reportage, enfin une mission au Vietnam et qui est revenu effaré par les violations des droits de l'homme, les gens dans des cages, enfin des trucs effarants que vous connaissez, des défoliants, etc. Il a fait une conférence à Paris et des gens ils en sont sortis en disant mais faut qu'on fasse quelque chose, faut qu'on bouge et surtout en tant que chrétien parce qu'à l'époque beaucoup de chrétiens, peut-être je dirais catholiques souvent, ne se seraient pas engagés dans une association pas chrétienne. Et puis certains avaient l'impression que en se défendant vis-à-vis du communisme au Vietnam, en Amérique du Sud, on défendait le christianisme. Et ben non, pas du tout. On n'a pas du tout l'impression que qu'en écrasant les gens, on représente pas le christianisme. C'est pas vrai. Donc très vite, l'action des chrétiens de l'abolition pour l'abolition de la torture s'est créée de façon complètement œcuménique.
D'accord. En France donc.
En France.
D'accord.
C'est, oui, c'est parti de l'enfance et puis maintenant on a une fédération internationale avec 17 ACAT francophones, Suisse, Belgique, Canada et les pays africains qui travaillent à la fois pour la lutte contre la peine de mort, et c'est remarquable, et puis aussi qui font des visites dans les prisons, parce qu'en Afrique c'est autre chose encore les prisons.
D'accord.
1974, ça veut dire qu'il y a bientôt un anniversaire ?
Ben oui, malheureusement, on va vers les 50 ans. En 2024, on va faire un événement, un programme. On travaille sur une publication. Moi, j'ai insisté pour qu'on mette dans la publication aussi l'évolution de la question des droits de l'homme dans le monde. En 74, on n'avait pratiquement aucun outil international à part la DUDH, la fameuse Déclaration universelle 48, des droits de l'homme.
Oui, bien sûr.
Qu'est-ce qu'on avait comme convention internationale? Pas grand-chose.
D'accord. Hein.
Aujourd'hui, on a le tribunal de la Haye, on a la cour pénale, enfin, on a des tas de choses qu'il faut.
D'accord. Alors, vous comptez combien d'adhérents à peu près en France ?
Alors, en France, il y a à peu près 7000 adhérents.
D'accord.
Il y a probablement 20 000, 25 000 gens qui soutiennent régulièrement l'ACAT. Mm-hmm. Je ne dis pas seulement qui participent, mais qui soutiennent financièrement, enfin, qu'on connaît.
Donc
dans le Maine-et-Loire, on a 110 adhérents.
D'accord.
Sur Angers, une trentaine, dont une dizaine participent à des réunions régulières chaque mois.
D'accord. Donc vous êtes indépendant financièrement.
Ah oui. Oui, non, mais c'est essentiel. Voilà, on n'est pas. Oui, on est complètement indépendant avec 24 salariés au siège.
Et est-ce qu'il y a des pays sur lesquels vous vous centrez beaucoup par rapport à l'abolition de la torture ?
On a beaucoup agi sur le Vietnam. Actuellement, la
En Afrique, peut-être ?
En Afrique, Burundi...
La Birmanie aussi.
La Birmanie, voilà. L'appel du mois, ce mois-ci, c'est sur la Birmanie.
On n'en parle pas beaucoup et...
Ouais. Bah, si, quand même, on en parle beaucoup. Je crois qu'on en parle beaucoup. C'est une catastrophe en Birmanie depuis le coup d'État des militaires. Il y a eu 30 ans pendant lesquels il n'y a eu pas d'exécution capitale en Birmanie.
Oui,
et puis au mois de juin, ils ont déclaré qu'ils allaient recommencer les exécutions. Ils n'avaient pas aboli la peine de mort. Et on a le sentiment qu'on va vers une catastrophe. Donc on veut une pression internationale beaucoup plus forte. Et l'appel du mois, on pose cette question-là, on vient vers ce rappel du mois. C'est un petit carton qu'on diffuse très largement. 36 000 exemplaires sont imprimés pour être renvoyés soit au pays dont on se soucie, soit à des instances internationales, soit pour ce coup-ci, on écrit au député qui est président du groupe d'amitié France-Birmanie à l'Assemblée nationale.
Ah oui, d'accord.
Histoire de mettre la pression, parce que la diplomatie française est déjà intervenue, mais effet zéro. C'est comme le Soudan, là. Ils font ce qu'ils veulent.
Oui, oui, oui. Donc, vous avez des modes d'action très, très différents, très variés.
Oui. Donc, la forme de base, c'est un peu l'appel que les gens signent. Là, on se sent tout à fait, on a fait la même chose.
Oui,
Amnesty et nous.
Sûr.
Et puis, maintenant, on a aussi, avec des professionnels, des interventions auprès des instances internationales. Vous savez, la France vient de se présenter devant le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, l'examen périodique universel. Alors, comme Amnesty International, l'ACAT aussi, via la Fédération internationale ACAT, on est partie prenante de ce dispositif où on amène l'attention internationale sur tel ou tel point, le droit d'asile qui se dégrade, le maintien de l'ordre qui est un peu trop policé.
Donc vous n'êtes pas absolument centré uniquement sur l'abolition de la torture. Ça, vous parlez aussi de plein d'autres droits.
Oui, parce que c'est parti de l'abolition de la torture. Et puis en 1984, après une consultation et même un vote de tous les adhérents, on a ajouté la peine de mort. Parce que, voilà. Et là-dessus, j'aimerais bien y revenir une seconde. Et puis, on s'aperçoit de plus en plus que les personnes victimes de violations des droits de l'homme à un niveau international sont souvent des défenseurs de l'environnement.
Oui, notamment
au Vietnam,
en Amérique latine aussi.
En Amérique latine, oui. Là, on a une intervention actuellement au Nigeria. Il y a un focus dans notre magazine humain sur ce projet pétrolier Total et Yakab, etc., qui bafoue les droits humains et de l'environnement autour d'eux. Et on s'aperçoit qu'on ne peut plus aujourd'hui simplement se préoccuper de personnes qui risquent leur vie, leur peau, parce qu'ils sont détenus. Mais en amont, c'est des gens qui ont dénoncé des situations et on essaye d'être avec eux.
Et tout ceci donc vous amène à collaborer avec d'autres associations. On s'est déjà retrouvé très souvent, même pour monter des soirées.
Absolument. Et alors là, c'est absolument mon point de vue, c'est que c'est le spécifique de la CAT, c'est d'être aussi présent à l'intérieur, en quelque sorte, des églises. En disant, avec d'autres associations chrétiennes aussi, également, comme CCFD Terre Solidaire, etc. On n'est pas tout seul. Mais sur la question de la pétition et de s'engager, de se bouger en tant que chrétien. Et puis je me dis, on a deux jambes. Des fois, on est dans une église, une communauté croyante, et puis on prie. Et puis, on a une autre jambe aussi pour partir dans la rue et pour travailler ensemble dans la citoyenneté. On n'est pas comme ça, simplement des écervelés.
Bien sûr.
Voilà.
Est-ce qu'il y aurait une action prochaine que vous allez faire, peut-être soit une manifestation ou une action avec une autre association?
Oui. Bon, notre action en propre, elle va être le 26 juin, parce que chaque année, le 26 juin, on marque la solidarité avec les victimes de la torture. C'est une journée mondiale de l'ONU et on propose à ceux qui veulent devenir prier. Alors, prier, ça nous engage aussi. C'est le sentiment que nous, on a. C'est que quand, c'est aussi l'expérience des croyants que tout d'un coup, on a du souci pour quelqu'un et puis, dans la journée qui vient, il vient frapper à la porte et puis on a à s'occuper de lui. On peut pas juste faire des paroles en l'air. Prier, c'est pas ça. Donc, le 26 juin, il y aura à l'église Saint-Joseph à 18h30 un temps pour porter 8 victimes particulièrement, mais aussi réfléchir. Aussi réfléchir sur prier, ça sert à quoi? Prier, c'est quoi? Mais par ailleurs, puisque ta question est plus large que ça, est-ce qu'on fait des actions spécifiques? Alors, c'est souvent au coup par coup. Avec les autres associations, il y a un sujet émergent que l'on porte à Angers avec d'autres. Et pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a rien.
D'accord. Et où est-ce que l'on peut vous contacter si on a envie justement de participer à l'une de ces actions? Comment est-ce qu'on peut vous contacter?
Alors, vous cherchez ACAT Anjou, et puis vous serez amené à un site propre, à quelques pages que je tiens sur le site du diocèse, mais puisque là, on a une place, ACAT-Anjou. Sinon, mon téléphone, c'est le 06 09 05 43 04, Zoltan Zalet, 06 09 05 43 04. Et puis l'information n'est plus large, c'est sur le site acatfrance.fr.
D'accord.
acatfrance.fr.
Merci beaucoup, Zoltan.
Merci, Zoltan, d'avoir accepté notre invitation.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
On se retrouve après une pause musicale.
Musique. Salut à toi, oh mon frère. Salut à toi, peuple khmer. Salut à toi, l'Algérien. Salut à toi, le Tunisien. Salut à toi, Bangladesh. Salut à toi, peuple grec. Salut à toi, petit indien. Salut à toi, punk iranien. Salut à toi, rebelle afghan. Salut à toi, le dissident. Salut à toi, le chilien. Salut à toi, le petit malien. Salut à toi, le mohican. Salut à toi, peuple gitan. Salut à toi, l'éthiopien. Salut à toi, le tchadien. Salut à vous, les partisans. Salut à toi, chaud et allemande. Salut à toi, le vietnamien. Salut à toi, le cambodgien. Salut à toi, le japonais. Salut à toi, le thaïlandais. Salut à toi, le laotien. Salut à toi, le coréen. Salut à toi, le polonais. Salut à toi, l'irlandais. Salut à toi, l'européen. Salut à toi, le mongolien. Salut à toi, le hollandais. Salut à toi, le portugais. Salut à toi, le mexicain. Salut à toi, le marocain. Salut à toi, le libanais. Salut à toi, le pakistanais. Salut à toi, le philippin. Salut à toi, le jamaïcain. Salut à toi, le guyanais. Salut à toi, le togolais. Salut à toi, le guinéen. Salut à toi, le guadeloupéen. Salut à toi, le congolais. Salut à toi, le sénégalais. Salut à toi, l'afro-cubain. Salut à toi, le portoricain. Salut à toi, la haute volta. Salut à toi, le Nigeria. Salut à toi, le Gaboni. Salut à toi, le vieux Ch'timi. Salut à toi, Che Guevara. Salut au comité de soldats. Salut à tous les hommes libres. Salut à tous les apatrides. Salut à toi, la Vertaga. Salut aussi à la Panda. Salut à toi, le punk anarchiste. Salut à toi, skin communiste. Salut à toi, le Liberia. Salut à toi, le Sri Lanka. Salut à toi, le Sandiniste. Salut à toi, le légendiste. Salut le mouvement des jeunes arabes. Salut à toi, Guatemala. Salut PK du contingent. Salut à toi, le Chotopan. Salut à toi, Pop Kanak. Salut à toi, Tchécoslovaque. Salut à tous les dragons. Salut à toi, qui est que bon. Salut à toi, jeune malgache. Salut à toi, le Pop de Bac. Salut à toi, qui est au violon. Salut à toi, les Morocons. Salut à toi, le Yougoslave. Salut à toi, le Voyou Slave. Salut à toi, le Salvador. Salut à toi, le Monodoy. Salut à toi, le Chinois. Salut à toi, le Zaïrois. Salut à toi, l'Espagnol. Salut à toi, le Ravachol. Salut à toi, le Hongrois. Salut à toi, l'Iroquois. Salut aussi à tous les Gosses, des îles maudites jusqu'à l'Écosse. Salut à Boudou, les Azous. Salut à la jeune garde rouge. Salut à toi, le peuple corps. Salut aux filles du Crésor. Salut à toi, la Vache-Thierry. Salut à Lorraine et Arthur. Salut à toi, peuple nomade. Salut à tous les Jamaouas. Salut à toutes les verticoles. Salut aussi à Yuri Briner. Salut à toi, l'handicapé. Salut, jeunesse, vive au danger.
Retour dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM. Vous venez d'écouter Salut à toi du groupe Les Berruriers Noirs. Et c'est maintenant l'heure des actualités d'Amnesty International et des droits humains.
Depuis le mois d'avril 2023, nous avons eu connaissance de plusieurs cas de décision d'expulsion de la France vers l'Iran et de placement de personnes iraniennes en centre de rétention. Or, depuis le soulèvement populaire de la mi-septembre 2022, les forces de sécurité iraniennes ont tué des centaines de personnes, de femmes et d'enfants. Elles ont soumis des milliers d'autres à des arrestations et détentions arbitraires, des mauvais traitements ou encore à des procès inéquitables, aboutissant à des peines de prison et parfois à des condamnations à mort, dont certaines ont été exécutées. Les Iraniens, qui ont cherché refuge hors d'Iran, sont généralement considérés par les autorités iraniennes avec beaucoup de suspicion. Et les risques en cas de refoulement vers l'Iran sont donc considérables. Avec la CIMAD et le collectif Iran Justice, nous dénonçons les décisions d'expulsion illégales et indignes qui violent le droit d'asile des personnes réfugiées en France.
Restons en Iran, où depuis novembre 2022, des milliers de jeunes filles ont été victimes d'empoisonnement au gaz. Les attaques ont d'abord été signalées dans la province de Qom, puis se sont étendues à d'autres provinces et sont devenues plus fréquentes. Plus de 100 écoles ont été visées, certaines plusieurs fois. En février, des journalistes indépendants hors d'Iran ont rapporté qu'une fillette de 11 ans était morte après avoir été empoisonnée lors d'une attaque dans son école. Les autorités ont réfuté ces informations et les médias d'État ont même publié des articles citant une maladie virale respiratoire, une maladie rénale, comme source possible du décès. Selon les médias indépendants et les organisations de défense des droits humains, les attaques les plus récentes ont eu lieu les 15, 16 et 17 avril dernier. Malgré le dépôt de plaintes de plusieurs familles, les autorités ne communiquent aucune information sur le suivi des enquêtes. Par ces attaques aux gaz chimiques visant délibérément les écoles de filles, ce sont les droits à l'éducation, à la santé et à la vie de millions d'écolières qui sont ainsi menacés.
Au Burkina Faso, le 20 avril dernier, des éléments de l'armée sont entrés à Karma, un village au nord du pays. Les militaires ont rassemblé les villageois, collecté leurs documents d'identité et puis tiré à bout portant, tuant ainsi au moins 147 personnes. Amnesty International a pu recueillir des témoignages auprès de rescapés. Tous pointent du doigt la responsabilité du 3e bataillon de la brigade d'intervention rapide. C'est le 3e cas d'expédition punitive, similaire à celui des tueries de Nouna en décembre 2022 et au raid de l'armée contre un site de personnes déplacées le 13 février dernier. Les autorités du Burkina Faso doivent immédiatement mettre fin aux attaques contre les civils dans le cadre du conflit armé et diligenter une enquête impartiale.
Est-il encore possible de critiquer la politique du gouvernement français sans craindre de sanctions ou de représailles ? Voici quelques exemples de propos tenus par différents responsables du gouvernement. Apparemment, venir en aide aux personnes migrantes et réfugiées à Calais, à la frontière franco-italienne ou en mer Méditerranée, reviendrait, je cite, « à faire le jeu des passeurs ». Lutter contre les discriminations à l'encontre des personnes musulmanes en France s'apparenterait à de la propagande islamiste. Dénoncer les dérives de la politique française du maintien de l'ordre attiserait les tensions sociales et relèverait du terrorisme intellectuel. Et il faut ajouter les récents propos du ministre de l'Intérieur remettant en question les fonds publics de la Ligue des droits de l'homme qui critiquait des pratiques abusives des forces de police. Tout ceci est une remise en question inquiétante du travail indispensable des organisations indépendantes de défense des droits humains.
Hissan El Kadi, un journaliste réputé de la presse algérienne indépendante, vient d'écoper de 5 ans de prison pour ses articles critiquant les autorités. Le 24 décembre 2022, des membres des services de sécurité en civil l'ont arrêté à son domicile sans présenter de mandat d'arrêt. Son arrestation est intervenue après qu'il eut publié un article qui soulignait le rôle de l'armée dans la répression de la liberté d'expression en Algérie. Et c'est le 2 avril dernier qu'il a été déclaré coupable d'avoir reçu des fonds à des fins de propagande politique et d'avoir porté atteinte à la sûreté de l'État. C'était une parodie de justice. Cette condamnation est la dernière illustration en date de la répression des autorités algériennes sur les voix critiques et les journalistes.
Vladimir Kara-Murza est un militant et journaliste russe, connu pour son activisme politique, son travail de défense des droits humains avec des ONG et sa collaboration avec des médias indépendants. Il était un proche allié du dirigeant de l'opposition, Boris Nemtsov, qui a été assassiné en 2015. Il a déjà survécu 2 fois à une tentative d'empoisonnement. Et bien sûr, aucune enquête n'avait été menée par les autorités russes sur ces 2 faits. Le 11 avril dernier, il a été arrêté près de son domicile à Moscou. Depuis, à cause de sa détention, on sait que son état de santé s'est détérioré. Le 17 avril, un tribunal l'a déclaré coupable de haute trahison, diffusion de fausses informations sur l'armée russe et conduite d'activités d'une organisation indésirable. La condamnation de Vladimir Kara-Murza est un nouvel exemple de la répression de la société civile exercée par les autorités russes, une répression renforcée depuis la guerre en Ukraine. Et maintenant, Elisa, on va te donner la parole. Juste pour rappel, tu es la cofondatrice d'une antenne jeune d'Amnesty à Angers. Alors, quelles sont les nouvelles ?
Alors, concernant l'antenne jeune, les choses avancent bien. Nous avons déjà recruté une vingtaine de jeunes motivés pour donner toujours plus de visibilité aux actions d'Amnesty et pour œuvrer en faveur des droits humains. Notre équipe de journalistes en herbe s'est empressée de poster sur Instagram un résumé des points forts du rapport d'Amnesty pour l'année 2022. Si ça vous intéresse, vous pouvez trouver notre travail sur notre compte Instagram AJ-Amnesty-Angers. Nous avons évidemment insisté sur l'invasion de la Russie en Ukraine, impliquant la violation de nombreux principes du droit international, comme des crimes de guerre, des déplacements forcés ou encore la censure de la presse. Nous avons ensuite évoqué deux conflits qui nous semblaient importants, dont un actuellement en Éthiopie, où les Tigréens sont privés d'aide humanitaire, et l'autre en Israël, donc durant le conflit israélo-palestinien, durant lequel les Palestiniens en Cisjordanie ont vécu une année très meurtrière, et même l'année la plus meurtrière de la décennie. Nous voulions également mettre en lumière certains droits qui reculent dangereusement au sein des législations nationales, comme celui à l'avortement aux États-Unis, qui n'est plus protégé par la Constitution fédérale. Et enfin, nous avons évoqué les conséquences du réchauffement climatique qui aggrave les inégalités dans le monde. Vous pouvez retrouver le rapport complet, classé pays par pays, sur le site d'Amnesty International, et beaucoup de sujets ne sont très peu, voire pas évoqués par les médias mainstream. Donc c'est toujours intéressant et stimulant de suivre l'état des droits de l'homme dans des régions parfois oubliées. Mis à part notre compte Instagram, nous avons lancé une première action de visibilisation pour notre antenne à l'Université Saint-Serge à Angers. Malheureusement, le directeur n'a pas souhaité que nous proposions aux étudiants de faire signer des pétitions, notamment contre l'utilisation d'armes létales pendant les manifestations en France, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site d'Amnesty. Mais nous avons quand même réussi à vendre des gâteaux pour financer nos futurs projets. Et nous avons aussi pu beaucoup discuter avec des étudiants qui étaient très enthousiastes à l'idée qu'une antenne jeune voit le jour à Angers. Nous étions étonnés de voir que beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, étaient donateurs annuellement pour Amnesty. Une bonne nouvelle pour l'ONG et pour les droits humains en général, ça prouve bien que les plus jeunes sont aussi préoccupés par ces questions. Par ailleurs, beaucoup de projets nous attendent pour l'année prochaine. Nous souhaitons contacter d'autres associations angevines pour les aider dans leurs actions. Nous aimerions, par exemple, beaucoup travailler avec les Restos du Cœur afin d'organiser peut-être une distribution alimentaire, ainsi qu'avec Soleil 49 qui s'occupe d'aider des réfugiés en leur apprenant le français, en les aidant à remplir des documents administratifs ou tout simplement en partageant un moment convivial avec des gens à leur écoute.
Merci Elisa. Nous sommes toujours dans Droit Devant sur Radio G 101.5 FM et c'est le temps de notre agenda militant et culturel.
Le samedi 13 mai, rendez-vous Caligny en bas de la montée Saint-Maurice pour la Pride d'Angers. Le village sera ouvert de 11h à 19h. La marche à travers les rues de la ville commencera à 14h.
Samedi 13 également, mais cette fois à 20h30, soirée de soutien à l'association Sainte Solidarité qui œuvre pour l'accueil des migrants. Il s'agit d'un concert de Jean-Michel Piton et du duo Anne et Sylvestre à la salle polyvalente de Saint-Augustin-des-Bois.
Cinédoc au 400 coups le mardi 16 mai à 20h avec le documentaire L'Étincelle. Ce film retrace l'histoire des luttes LGBT des années 60 à nos jours, après que l'étincelle des émeutes de Stonewall a embrasé l'action militante qui de New York devait se répandre partout dans le monde. Le débat sera qui suivra se fera en présence de personnes très intéressantes, Sébastien Tuller d'Amnesty, Jean-Marc Berton, diplomate ambassadeur pour les droits des personnes LGBT+, Bernard Moreau et Stéphane Corbin de Quasar.
Autre cinédoc au 400 coups le jeudi 25 mai à 20h en présence des associations Attaque, Confédération Paysanne et Justice Climatique pour le documentaire De l'eau jaillit le feu. On y parlera de la lutte engagée dans le Marais Poitevin contre le projet de méga bassine.
Et il est déjà presque 19h30, le temps de conclure cette émission et de remercier Zoltan une nouvelle fois. D'ici là, n'hésitez pas à réécouter cette émission en replay sur le site www.radio-g.fr. Vous pouvez également nous rendre visite sur Facebook ou Instagram à amnesty.angers. À très bientôt sur les ondes de Radio G.
Bonne soirée.
À très bientôt aussi.
Au revoir.